Audiolib présente Les huit montagnes de Paolo Cognetti. Lu par Emmanuel de Koenig. Adieu. Adieu, mais je te dis ceci. À toi, invité de la fête. Il prie bien, celui qui aime bien, à la fois l'homme et l'oiseau et la bête. Esté Coleridge, La complainte du vieux marin. Mon père avait une façon bien à lui d'aller en montagne. Peu versé dans la méditation, tout en acharnement et en bravade. Il montait sans économiser ses forces, toujours dans une course contre quelqu'un ou quelque chose, et quand le sentier tirait en longueur, il coupait par la ligne la plus verticale. Avec lui, il était interdit de s'arrêter, interdit de se plaindre de la faim, de la fatigue ou du froid. Mais on pouvait chanter une belle chanson, surtout sous l'orage ou en plein brouillard, et dévaler les névés en lançant des cris d'indiens. Ma mère, qui l'avait connu enfant, disait que même alors, il n'attendait personne, trop occupé qu'il était à rattraper tous ceux qu'il voyait plus haut. C'est qu'il en fallait de bonnes jambes pour se montrer désirable à ses yeux. Et dans un éclat de rire, elle laissait entendre qu'elle l'avait conquis ainsi. Avec le temps, elle finit par bouder leurs ascensions, préférant s'asseoir dans les prés, tremper les pieds dans l'eau ou deviner le nom des herbes et des fleurs. Et même sur les sommets, elle aimait surtout observer les cimes plus lointaines, repenser à celles de sa jeunesse et se remémorer quand elle y était allée et avec qui, pendant que mon père se laissait gagner par quelque chose comme du dépit et ne demandait qu'à rentrer. C'était, je crois, des réactions opposées à une même nostalgie. Mes parents avaient émigré en ville vers l'âge de 30 ans, quittant la campagne vénitienne où ma mère était née et où mon père, orphelin de guerre, avait grandi. Leur première montagne, leur premier amour, ça avait été les Dolomites. Il leur arrivait parfois de les nommer dans leurs conversations, quand j'étais encore trop petit pour suivre ce qu'ils disaient. Mais certains mots retentissaient à mes oreilles par leur sonorité plus forte, plus lourde de sens. Le Catinaccio, les Sassolungo, les Tofane, la Marmolada. Mon père n'avait qu'à prononcer l'un de ces noms et les yeux de ma mère brillaient. Leur amour était né sur ces terres, je finis moi aussi par le comprendre, tout ça grâce à un prêtre qui les y emmena quand ils étaient enfants, celui-là même qui les maria au pied des Tre Cime di Lavaredo, devant la petite église qu'il y a là, par un matin d'automne. Ce mariage en montagne était le mythe fondateur de notre famille. Rejeté par les parents de ma mère pour des raisons que je ne connaissais pas, célébré entre quatre amis avec des anoraks pour tout habit de noces, et un lit au refuge d'Oronzo pour leur première nuit de mari et femme. La neige brillait déjà sur les vires de la Cima Grande. C'était un samedi d'octobre 1962, la fin de la saison alpine pour cette année comme pour bien d'autres à venir. Le lendemain, ils chargèrent dans la voiture leurs lourdes chaussures en cuir, leurs pantalons de zouave, une grossesse pour elle, un contrat d'embauche pour lui, et s'en allèrent à Milan. Le calme n'était guère une vertu qui impressionnait mon père. En ville, pourtant, celle-ci lui aurait plus servi que son souffle. À Milan, le panorama était bien là. Dans les années 1970, nous habitions l'immeuble d'un grand boulevard sous le bitume duquel, disait-on, coulait la rivière Olona. Il est vrai que les jours de pluie, la route se retrouvait sous l'eau, et j'imaginais le fleuve rugir dans le noir, se gonfler jusqu'à déborder des bouches d'égout. Mais c'était l'autre fleuve. Celui des voitures, fourgons, motos, camions, autobus, ambulances, qui restaient toujours en crue. Nous logions en haut, au septième étage. Les deux rangées d'immeubles identiques qui contenaient la route amplifiaient le vacarme. Certaines nuits, mon père n'en pouvait plus, sautait du lit, ouvrait la fenêtre en grand comme pour insulter la ville, lui intimer le silence ou lui jeter de l'huile bouillante. Il restait une minute à regarder en bas, puis enfilait.